Professeur Ali Doutinto, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été récemment honoré par le magazine Nature, qui vous a distingué comme l'une des personnalités scientifiques qui ont marqué l'année 2023. Qu'est-ce que ça fait de paraître dans ce magazine-là?
Comme vous pouvez l'imaginer, ça fait plaisir. Parce que lorsqu'on connaît comment et combien l'Afrique et le monde entier regorgent de grands talents sur le plan scientifique, et en plus d'être le seul Africain, il faut le retenir, je pense que c'est une grande consécration, non seulement pour ma personne et mon équipe, mais également pour le Burkina Faso qui est honoré à travers cette distinction.
Comment l'unité clinique de Nanoro, justement, en est arrivée là, à ces résultats-là qui sont célébrés au-delà du Burkina Faso?
Et il faut dire que c'est une très longue histoire, hein, parce que l'unité existe depuis 2009. Nous avons participé à la validation, à la recommandation du premier vaccin contre le paludisme qui est RTSS, qui avait été produit par la firme pharmaceutique GSK. Nanoro est rentré un peu dans l'histoire à travers les essais cliniques de phase 3 sur ce vaccin qui va commencer à être déployé en janvier 2024 au Burkina Faso. Et à la suite de ce vaccin, nous avons collaboré avec l'Université d'Oxford qui a synthétisé la protéine R21 en partant justement de la protéine RTSS pour en faire le vaccin R21 Matrix M qui a été testé en phase 2 d'abord en 2021. Où nous avons démontré une efficacité jamais rapportée dans l'histoire de la vaccinologie mondiale, qui était de 77% sur une année. Et cela a ouvert la voie à la conduite de l'essai clinique de phase 3, qui est la phase ultime, qui devra aboutir à l'enregistrement et à l'utilisation de ce médicament. Et très bonne nouvelle, c'est que l'OMS n'a même pas attendu la fin de cette phase 3 qui est toujours en cours avant d'homologuer, de recommander ce vaccin très bientôt, à la mi-2024. Et ce vaccin viendra également à être déployé pour nos populations.
Tout cela en partant quasiment de rien, parce que c'est peut-être aussi ce que beaucoup ne savent pas. Au tout début, c'était avec très peu de moyens. Est-ce que vous pouvez nous en parler également?
Où nous avons commencé pratiquement de zéro. Hein. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'infrastructure, on n'avait même pas de véhicule. Et nous avons commencé très progressivement avec 7 personnes, et ensuite 10 personnes. Et aujourd'hui, l'unité regorge plus de 400 personnes qui travaillent sur un portefeuille d'environ 30 projets de recherche. Dans différents domaines, on nous connaît beaucoup plus sur le vaccin, mais nous travaillons dans le développement de nouveaux médicaments assez innovants avec des laboratoires pharmaceutiques. Nous travaillons sur des approches innovantes de prise en charge du paludisme chez la femme enceinte, etc., etc. Je pense que c'est tout cela qui, en plus des résultats vraiment excellents que nous avons produits avec le R21, qui nous a valu justement d'être cités dans les Nature Terms.
Vous êtes un peu comme la cheville ouvrière. L'unité de Nanoro n'a pas le brevet pour les vaccins qui sont développés. Comment ça se passe de ce côté-là?
Il faut dire que c'est un partenariat pour développer un médicament ou un vaccin qui implique plusieurs acteurs. Et il y a l'inventeur, qui est ici l'Université d'Oxford, qui a inventé la protéine R21 Matrix M à partir de la protéine RTSS, qui avait été elle-même inventée et synthétisée par GSK, qui sont les concepteurs du produit. Il y a le partenaire commercial, qui est l'Institut du Sérum d'Inde, à qui l'Université d'Oxford a cédé le brevet pour la production et la vente. Il y a un quatrième partenaire, qui est Novavax, qui donne ce que nous on appelle le véhicule qui va transporter le vaccin dans l'organisme. Et enfin, au bout de la chaîne, il y a l'unité de recherche clinique de Nanoro qui a la plateforme pour dire si oui ou non ce vaccin peut être utilisé de façon efficace, qui dispose de cette plateforme d'essais cliniques, mais également de la compétence qui connaît la maladie. Et donc, nous sommes en bout de chaîne, si vous voulez. Donc, c'est un travail de longue haleine qui a commencé depuis près de 10 ans maintenant. Hein.
Comment vous appréciez justement l'environnement de la recherche au Burkina? Est-ce qu'il est assez favorable pour qu'on puisse produire autant d'émules comme le fait l'unité de Nanoro?
Ah bah, c'est un environnement, je dirais, assez dynamique. Parce que quand on voit comment les chercheurs burkinabés arrivent à compétir sur le plan international, lever des fonds, donc dynamique, oui, mais le contexte, il faut le dire, est très difficile. Parce que comme vous le savez, nous dépendons beaucoup des financements extérieurs, lié au fait que la recherche coûte excessivement cher, lié au fait également que jusqu'à présent, nous ne disposons pas de toute la plateforme technique, technologique, pour aller depuis la conception d'une protéine, d'une molécule, jusqu'à l'essai clinique qui va permettre son enregistrement. Nous sommes en quelque sorte au bout de la chaîne, mais nous devons travailler justement avec tout l'engagement politique que nous sollicitons auprès de nos politiques et de faire en sorte qu'on puisse créer toute la plateforme nécessaire pour nous permettre de mener la recherche et le développement. Et cela peut nous permettre de définir un agenda propre à notre pays. Mener des recherches sur des questions purement endogènes, de santé, qui ne concernent peut-être pas les autres, comme par exemple la dengue.
J'allais justement poser la question, est-ce que là-dessus, il y a un début de projet quelque part à votre niveau?
En ce qui concerne la dengue, il y a un vaccin qui a été récemment recommandé par l'OMS, mais qui attend d'être préqualifié avant d'être utilisé. Mais sachez bien que ce vaccin, et je ne pense pas que le Burkina pourra y accéder. Et la dengue n'est pas comme le paludisme où des acteurs peuvent s'engager à acheter des doses comme l'initiative Gavi, l'UNICEF, pour mettre à la disposition des populations de façon gratuite. parce que ce n'est pas une maladie prioritaire pour les bailleurs de fonds, voilà, ces organisations, ils vont s'orienter plutôt vers des pays où la maladie est endémique. Donc ça veut dire que pour le moment, nous devons faire avec les approches préventives, notamment le traitement des gîtes larvaires, avec les pulvérisations qui sont menées, mais surtout la surveillance épidémiologique pour pouvoir anticiper.
Est-ce qu'on peut avoir une idée des projets sur lesquels travaille l'unité clinique de Nanoro aujourd'hui ?
Alors, de façon spécifique, vous avez posé la question sur la dengue. Nous n'avons rien de concret pour le moment. Nous avons des idées, nous avons engagé des discussions avec l'Université de Maryland au niveau des États-Unis et pour voir dans quelle mesure on peut collaborer pour commencer très prochainement une phase 2 sur un vaccin. Mais il faut dire également qu'avec une autre équipe de l'Université d'Oxford, nous sommes en train de conduire des essais cliniques de phase 2 qui peuvent éventuellement déboucher, faire des phases 3 si nous avons des résultats assez satisfaisants sur un vaccin de troisième génération contre le paludisme qui va essayer d'éviter la pénétration du parasite dans le globule rouge parce que déjà R21 vous bloque la pénétration du parasite dans le foie et faire en sorte qu'en combinant ces deux vaccins, on puisse améliorer le seuil de l'efficacité pour atteindre peut-être 90-100%, ce qui va permettre encore d'accélérer l'agenda de l'élimination du paludisme.
Professeur Alidou Tinto, merci.